Chapitre 9. Société ternaire et colonialisme, trajectoire eurasiatique. Nous avons étudié dans les précédents chapitres le cas des sociétés esclavagistes, puis des sociétés coloniales post-esclavagistes, en analysant plus particulièrement le cas de l'Afrique, puis celui de l'Inde. Avant d'aborder l'étude de la crise des sociétés propriétaristes et coloniales au XXe siècle, ce que nous ferons dans la prochaine partie, il nous faut compléter l'analyse du colonialisme et des conséquences sur la transformation des régimes inégalitaires extra-européens. Nous allons, dans ce chapitre, traiter notamment du cas de la Chine, du Japon et de l'Iran, et plus généralement de la façon dont la rencontre entre les puissances européennes et les principales structures étatiques asiatiques a contribué à forger différentes trajectoires inégalitaires, sur le plan à la fois politico-idéologique et institutionnel. Nous allons commencer par examiner le rôle central joué par les rivalités entre États européens dans le développement d'une capacité fiscale et militaire sans précédent au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, sans commune mesure par exemple avec celle observée au même moment dans les empires chinois et ottomans. Cette puissance étatique européenne, mue par une compétition exacerbée entre plusieurs constructions étatiques et communautés sociopolitiques de taille comparable en Europe, en particulier entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, apparaît dans une large mesure à l'origine de la domination militaire, coloniale et économique occidentale qui a longtemps caractérisé le monde moderne. Nous analyserons ensuite la diversité des constructions idéologiques et politiques qui ont succédé aux sociétés trifonctionnelles asiatiques à la suite de leur rencontre avec le colonialisme européen. Au-delà du cas de l'Inde, nous évoquerons en particulier ceux du Japon, de la Chine et de l'Iran. Nous verrons que la multiplicité des évolutions et des bifurcations possibles invite de nouveau à relativiser l'importance des déterminismes culturels et civilisationnels et à insister sur l'importance des logiques sociopolitiques et événementielles dans la transformation des régimes inégalitaires. Le colonialisme, la domination militaire et la prospérité occidentale. Nous avons déjà évoqué à de multiples reprises le rôle central joué par l'esclavage, le colonialisme et plus généralement les formes les plus brutales de coercition et de domination policière et militaire dans le processus de montée en puissance de l'Europe entre 1500 et 1960. Il est peu contestable que la force pure et dure a joué un rôle central dans le commerce triangulaire et la mise au travail des Africains dans les îles esclavagistes françaises et britanniques, dans le sud des États-Unis et au Brésil. Le fait que les matières premières extraites de ces plantations ont apporté des bénéfices considérables aux puissances coloniales, et en particulier que le coton a joué un rôle central dans le décollage de l'industrie textile, est tout aussi bien établi. Nous avons également analysé comment l'abolition de l'esclavage s'était accompagnée de généreuses indemnités aux propriétaires, avec dans le cas de Haïti une lourde dette vis-à-vis de la France jusqu'en 1950, et dans le cas états-unien, la privation des droits civiques des descendants d'esclaves jusqu'aux années 1960, voire jusqu'aux années 1990 dans la variante sud-africaine. Enfin, nous avons étudié comment le colonialisme post-esclavagiste s'était également appuyé sur diverses formes d'inégalités légales et statutaires, ainsi que sur le travail forcé, appliqué par exemple dans les colonies françaises jusqu'en 1946. Nous allons maintenant examiner comment la domination militaire européenne, qui s'imposa graduellement au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, avant de devenir hégémonique au XIXe et au début du XXe, s'est appuyé sur le développement d'une capacité fiscale et administrative sans précédent des États européens au cours de cette période. Les données permettant de mesurer le poids des impôts dans les différents pays sont certes limitées avant le XIXe siècle. Plusieurs faits sont toutefois bien établis. En particulier, des recherches récentes ont permis de collecter sur une base aussi homogène que possible les recettes fiscales des principaux États européens et celles de l'Empire ottoman depuis le début du XVIe jusqu'au XIXe siècle. La principale difficulté est de parvenir à comparer les montants de façon significative. Si les populations des États sont relativement bien connues, tout du moins en première approximation, il n'en va pas de même des niveaux d'activité économique qui ne sont saisis que de façon très incomplète. Faut également souligner que de nombreux paiements obligatoires ou quasi-obligatoires étaient alors réalisés au bénéfice d'autres acteurs et structures collectives, en particulier des organisations religieuses, des fondations pieuses, des seigneuries locales ou des ordres militaires, aussi bien en Europe que dans le monde ottoman, perse, indien ou chinois, qu'il serait d'ailleurs intéressant de comparer sur ce point. Les éléments présentés ici concernent uniquement les recettes collectées par l'État central au sens strict. Une première façon de procéder consiste à estimer la valeur en argent ou en or des recettes fiscales collectées par les États dans les différentes monnaies en vigueur. À une époque où la monnaie avait toujours un soubassement métallique, cela permet de se faire une bonne idée de la capacité des États à financer leur politique, par exemple pour rétribuer des soldats, acquérir des marchandises ou financer la construction de routes et de bateaux. En l'occurrence, on constate une progression spectaculaire des sommes collectées par les États européens entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Autour de 1500-1550, les recettes fiscales des principales puissances européennes, comme le Royaume de France et le Royaume d'Espagne, se situaient à environ 100-150 tonnes d'argent par an, soit approximativement le même montant que l'Empire ottoman. À ce même moment, l'Angleterre collecte à peine 50 tonnes par an, ce qui s'explique en partie par sa population plus réduite. Au XIVe-XVe siècle, les recettes fiscales des royaumes de France et d'Angleterre étaient toujours inférieures à 100 tonnes d'argent par an, tout en traversant de multiples cycles et retournements liés aux conflits militaires et aux regroupements territoriaux en cours. Au cours des siècles suivants, ces ordres de grandeur vont se transformer radicalement, en particulier au fil d'une rivalité croissante entre l'Angleterre et la France. Les deux pays atteignent respectivement 600 et 900 tonnes d'argent par an, autour de 1700, 800 et 1100 tonnes dans les années 1750, puis 1600 et 1900 tonnes dans les années 1780, laissant les autres États européens loin derrière. Surtout, le fait central est que les recettes fiscales collectées par l'État ottoman sont restées quasiment au même niveau entre 1500 et 1780, à peine 150-200 tonnes. À partir de 1750, ce sont non seulement la France et l'Angleterre qui ont une capacité fiscale nettement supérieure à celle de l'État ottoman, mais également l'Autriche, la Prusse, l'Espagne et la Hollande. Voir graphique 9.1. Ces évolutions s'expliquent pour partie par l'évolution des populations. Rappelons en particulier que la France était de loin le pays européen le plus peuplé au XVIIIe siècle, et des richesses produites, par exemple en Angleterre, dont la plus faible population est compensée par une production par habitant plus importante. Mais elle s'explique aussi et surtout par l'intensification de la pression fiscale dans les États européens, alors que celle-ci reste stable dans l'Empire ottoman. Pour mesurer l'intensité du prélèvement fiscal, une bonne façon de procéder consiste à calculer les recettes fiscales par habitant et à comparer les montants obtenus avec le niveau des salaires journaliers urbains dans le secteur de la construction. Ces derniers font en effet partie des salaires les moins mal connus et les plus comparables dans les différents pays sur une longue période, aussi bien en Europe que dans l'Empire ottoman et dans une certaine mesure en Chine. Les données disponibles sont imparfaites, mais les ordres de grandeur sont extrêmement frappants. On constate par exemple que les recettes fiscales par habitant se situaient entre l'équivalent de 2 à 4 journées de travail de manœuvre urbain non qualifié autour de 1500-1600, aussi bien dans les principaux États européens que dans l'Empire ottoman et dans l'Empire chinois. Puis, la pression fiscale s'intensifie à partir de 1650-1700 dans les États européens. Elle atteint l'équivalent de 10 à 15 journées de salaire vers 1750-1780 et de près de 20 journées de salaire en 1850, avec des trajectoires extrêmement proches dans les principaux États, en particulier en France, en Angleterre et en Prusse, construction étatique et nationale qui part de plus loin, mais se développe à vive allure au XVIIIe siècle. La progression de la pression fiscale européenne est extrêmement rapide. Aucune différence claire entre les niveaux européens, ottomans et chinois n'apparaît autour de 1650. Puis, des écarts commencent à se former autour de 1700. Et enfin, le décrochage est considérable à partir de 1750-1780. Voir graphique 9.2. Pourquoi les États européens ont-ils connu une progression aussi rapide de leur pression fiscale au XVIIe et XVIIIe siècle? Et pourquoi les États ottomans ou chinois n'ont-ils pas suivi une même évolution? Précisons tout d'abord que ces niveaux de pression fiscale demeurent faibles par comparaison à ceux de l'âge moderne, toujours moins de 10% du revenu national. Comme nous le verrons dans les prochains chapitres, le total des impôts, taxes et autres prélèvements obligatoires ne dépassait pas 10% du revenu national en Europe comme aux États-Unis au XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, avant de connaître un grand bond en avant au cours du XXe siècle, entre les années 1910-1920 et les années 1970-1980, puis de se stabiliser suivant les cas entre 30 et 50% du revenu national dans les pays riches depuis les années 1980. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les premières estimations du revenu national, c'est-à-dire du total des revenus monétaires et en nature dont bénéficient les habitants d'un pays donné, ont vu le jour au Royaume-Uni et en France autour de 1700, sous la plume d'auteurs tels que Petty, King, Boisgilbert et Vauban. Ces travaux avaient notamment pour objectif d'estimer le potentiel fiscal des États et de débattre de possibles réformes du système des impôts, à une époque où chacun sentait bien que la pression fiscale de l'État central s'était accrue et où le besoin de quantification et de rationalisation se faisait sentir. Ces estimations se fondaient sur des calculs de surface et de production agricole, ainsi que sur des données commerciales et salariales comme celles du secteur de la construction, et elles fournissent d'utiles ordres de grandeur. Les séries de revenu national et de produit intérieur brut établis à partir des matériaux pour le XVIIe et le XVIIIe siècle permettent ainsi de fixer les niveaux et les progressions d'ensemble. Leurs variations, d'une décennie à l'autre, sont toutefois trop incertaines pour que l'on puisse les utiliser ici. Et c'est pourquoi je préfère exprimer l'évolution des recettes fiscales en termes de tonnes d'argent ou de journées de salaire de manœuvre urbain, qui constituent des unités de mesure sans doute plus adaptées aux constructions statistiques propres à ces périodes. Pour fixer les idées, on peut toutefois considérer que les évolutions observées en France, au Royaume-Uni et en Prusse, avec une hausse des recettes par habitant allant d'environ 2-4 journées de salaire en 1500-1550 à 15-20 journées de salaire en 1780-1820, correspondent à une situation où les recettes fiscales seraient passées d'à peine 1-2% du revenu national au début du XVIe siècle à environ 6-8% du revenu national à la fin du XVIIIe siècle. Quand l'État ne veillait pas la nuit, les deux bonds en avant de l'État moderne. Aussi approximatif soit-il, ces ordres de grandeur méritent d'être retenus car ils correspondent à des capacités étatiques très différentes. Un État qui prélève seulement 1% du revenu national dispose de très peu de pouvoir et de capacités de mobilisation de la société. En gros, il peut mettre à son service 1% de la population pour remplir les fonctions qu'il juge utiles. À l'inverse, un État qui prélève de l'ordre de 10% du revenu national en impôts peut mettre à son service environ 10% de sa population, ou financer des transferts ou des achats d'équipements et de marchandises d'un montant équivalent, ce qui est autrement plus considérable. Concrètement, avec 8-10% du revenu national en recettes fiscales, comme les États européens du XIXe siècle, il est certes impossible de financer un système éducatif, sanitaire et social élaboré. Écoles, collèges et lycées gratuits, assurance maladie universelle, retraites et transferts sociaux, etc. Fonctions qui, comme nous le verrons, ont exigé le développement au XXe siècle de niveaux de pression fiscale nettement supérieurs, typiquement entre 30% et 50% du revenu national. En revanche, de telles sommes sont amplement suffisantes pour permettre à l'État centralisé d'organiser de façon efficace ses fonctions de veilleur de nuit, c'est-à-dire les fonctions policières et juridictionnelles permettant d'assurer le maintien de l'ordre et de la protection de la propriété sur l'ensemble du territoire, tout en finançant une importante capacité militaire de projection extérieure. En pratique, quand la pression fiscale avoisinait 8-10% du revenu national, comme en Europe au 19e et au début du 20e siècle, ou 6-8% du revenu national dans les États européens de la fin du 18e siècle, les dépenses militaires absorbaient généralement à elles seules plus de la moitié des recettes, et parfois plus des deux tiers. Ces ordres de grandeur valent encore pour les budgets militaires des années 2010, qui sont d'environ 2% du revenu national dans les pays militairement peu actifs, comme en Europe, dépassent les 4% du revenu national aux États-Unis et les 10% en Arabie Saoudite. Au niveau mondial, les dépenses militaires sont passées de plus de 6% du revenu national au début des années 1960, guerre coloniale, guerre froide, à tout juste 3% dans les années 2010. À l'inverse, avec l'équivalent d'à peine 1%, 2% du revenu national en recettes fiscales, un État est condamné à être un État faible, incapable de maintenir l'ordre et d'assurer les fonctions minimales de veilleur de nuit. Si l'on adopte cette définition, la plupart des États de la planète, jusqu'à une date relativement récente, en particulier les États européens jusqu'au XVIe siècle, ainsi par exemple que les États ottomans et chinois jusqu'au XIXe siècle, étaient des États faibles. Plus précisément, il s'agissait de structures étatiques faiblement centralisées, incapables de garantir de façon autonome la sécurité des biens, des personnes et le respect de l'ordre public et du droit de propriété sur l'ensemble du territoire qu'elles étaient théoriquement supposées contrôler. Ces États s'appuyaient par conséquent, pour assurer ces tâches régaliennes, sur de multiples structures et élites locales, seigneuriales et militaires, cléricales et intellectuelles, dans le cadre des sociétés trifonctionnelles et de leurs diverses variantes. Tant que tous les États de la planète étaient également faibles, un certain équilibre prévalait. À partir du moment où plusieurs États européens développèrent une capacité fiscale et administrative significativement plus importante, des dynamiques nouvelles s'enclenchèrent. À l'intérieur des pays en question, ce développement de l'État centralisé coïncida avec la transformation des sociétés ternaires en sociétés de propriétaires et s'appuya sur la montée en puissance de l'idéologie propriétariste fondée sur une séparation stricte entre les pouvoirs régaliens, désormais monopole de l'État, et le droit de propriété, réputé ouvert à tous. À l'extérieur, la capacité de projection des États européens aboutit à la formation des empires esclavagistes puis coloniaux et au développement de diverses constructions politico-idéologiques permettant de structurer l'ensemble. Dans les deux cas, les processus de construction d'une capacité fiscale et administrative furent inséparables des développements politico-idéologiques. C'est toujours en vue d'un objectif de structuration de la société domestique et internationale, par exemple dans le cadre de la rivalité avec l'islam, qu'une forme particulière de capacité étatique se développe, suivant des processus sociopolitiques conflictuels et instables. Pour résumer, on peut distinguer deux grands bonds en avant de l'État moderne. Le premier, qui se déroula entre 1500 et 1800 environ, dans les principaux États européens, permit à ces derniers de passer d'à peine 1-2% du revenu national en recettes fiscales à environ 6-8%. Ce processus alla de pair avec le développement des sociétés propriétaristes à l'intérieur et coloniales à l'extérieur. Le second bond en avant, qui se déroula des années 1910-1920 aux années 1970-1980, conduisit l'ensemble des pays riches à passer d'environ 8-10% du revenu national en recettes fiscales à la veille de la Première Guerre mondiale, à 30-50% depuis les années 1980. Cette transformation est inséparable du processus général de développement économique et d'amélioration historique des conditions de vie, et il aboutit à la mise en place de diverses formes de sociétés social-démocrates. Autour de ce schéma général, il existe une grande diversité de trajectoires et de bifurcations possibles, en particulier concernant le second bond en avant, et sa difficile extension aux pays pauvres à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, questions sur lesquelles nous reviendrons dans les prochaines parties. Revenons-en à la question initiale. Pourquoi le premier bond en avant s'est-il déroulé entre 1500 et 1800 dans les principaux États européens avec le développement d'une capacité fiscale sans précédent et non, par exemple, dans les États ottomans et asiatiques? Il ne peut exister de réponse unique ou déterministe à une telle question. Pour autant, un facteur particulièrement important apparaît clairement. Celui du morcellement politique de l'Europe en plusieurs États de taille comparable et de la rivalité militaire exacerbée qui en a découlé. Cette explication pose naturellement la question des origines de ce morcellement politique, par comparaison notamment à la relative unité chinoise ou à la très relative unité indienne. On peut penser que les barrières géographiques et physiques propres à l'Europe, en particulier à l'ouest du continent, où la France est séparée de ses principaux voisins par des barrières montagneuses, maritimes ou fluviales, ont pu jouer un certain rôle. Il paraît toutefois évident que des constructions étatiques et des regroupements territoriaux autres que ceux observés auraient pu se produire, en Europe comme dans les autres régions du monde, en fonction de trajectoires indissociablement socio-économiques et politico-idéologiques. Toujours est-il que si l'on prend comme données les découpages étatiques en vigueur autour de 1500, et si l'on examine le déroulé des événements conduisant au quasi-décuplement de la capacité fiscale des États européens entre 1500 et 1800, alors on constate que chacune des étapes majeures de hausse des impôts correspondait effectivement à des besoins de recrutement de nouveaux soldats et de mise en place d'armées supplémentaires dans le cadre de la situation de guerre quasi-permanente qui régnait alors en Europe. Suivant la forme du régime politique et de la structure socio-économique du pays concerné, ces besoins donnaient alors lieu au développement de capacités fiscales et administratives plus ou moins étendues. L'histoire a notamment retenu la guerre de 30 ans, 1618-1648, la guerre de succession d'Espagne, 1701-1714, ou encore la guerre de 7 ans, 1756-1763, qui constitua le premier conflit européen d'ampleur véritablement mondiale, puisqu'il mettait en jeu les colonies d'Amérique, des Antilles et de l'Inde, et a fortement contribué à préparer le terrain pour les révolutions états-uniennes, ibéro-américaines et françaises. Mais il existait également, en sus de ces conflits majeurs, une multitude de guerres plus courtes et plus localisées. En prenant en compte l'ensemble des conflits militaires du continent et des années concernées, on constate que les pays européens étaient en guerre 95% du temps au XVIe siècle, 94% au XVIIe siècle et encore 78% au XVIIIe siècle, contre 40% au XIXe et 54% au XXe siècle. La période 1500-1800 met en jeu une rivalité militaire incessante entre puissances européennes. Et c'est ce qui nourrit le développement d'une capacité fiscale sans précédent, ainsi que de nombreuses innovations technologiques, en particulier en matière de canons et de navires de guerre. À l'inverse, l'État ottoman et l'État chinois, qui autour de 1500-1550 avaient une capacité fiscale proche de celle des États européens, ne firent pas face aux mêmes incitations. Il régnait entre 1500 et 1800 sur des empires de grande taille de façon relativement décentralisée, sans qu'il leur soit nécessaire de faire progresser leur capacité militaire et leur centralisation fiscale. La concurrence exacerbée entre États-nations européens de taille moyenne en cours de formation entre le XVIe et le XIXe siècle semble bien être le facteur central à l'origine de structures étatiques spécifiques, plus fortement centralisées et plus développées fiscalement que les États en cours de développement des empires ottomans, chinois ou moghols. Or, le fait est que, si la capacité fiscale et militaire des États européens a initialement été développée principalement en vue des conflits internes au continent européen, cette compétition a fini par donner à ces États une puissance de frappe beaucoup plus forte que celle des États des autres régions du monde. Vers 1550, l'infanterie et la marine ottomane regroupaient environ 140 000 hommes, soit autant que les effectifs français et anglais réunis, respectivement 80 000 et 70 000 hommes. Cet équilibre va être bouleversé au cours des deux siècles suivants, marqué par d'interminables guerres internes européennes. En 1780, les effectifs ottomans n'ont presque pas bougé, 150 000 hommes, alors que les troupes terrestres et navales françaises et anglaises atteignent 450 000 hommes, 280 000 fantassins et marins pour la France, 170 000 pour l'Angleterre. Tout cela avec une flotte et une puissance de feu nettement supérieures. À cette date, il faut en outre compter sur 250 000 hommes pour l'Autriche, et 180 000 pour la Prusse, alors que ces deux États étaient militairement inexistants en 1550. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman comme l'Empire chinois seront définitivement dominés sur le plan militaire par les États européens. Outre ces différences quantitatives, il faut souligner le rôle joué par la supériorité des formes d'organisation militaire, en particulier en matière navale, héritée des combats intra-européens des siècles précédents.